Enfin, vous savez, un des défis en tant que prédicateur régulier dans une église, c'est le fait que des fêtes comme Noël arrivent et on est presque obligé, n'est-ce pas, de prêcher sur Noël. C'est-à-dire que ce serait un petit peu inapproprié de prêcher sur autre chose. Et donc, je dois continuellement trouver des messages pour, pour toujours. Alors, c'est toujours un petit peu stressant pour moi. Mais je crois qu'avoir trouvé un message ce matin, un texte qu'on n'a jamais en fait regardé en tant qu'église avant, d'accord ? Parce qu'on n'a pas tout fait encore, on n'a que 8 ans d'existence. Et au début je me suis dit, ah, je ne sais pas, est-ce que je veux vraiment faire ce texte ? Mais ensuite j'étais tout content en l'étudiant, parce que je pense qu'il est extrêmement approprié. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que Noël, on a toujours une image très belle de Noël, ce qui est normal. C'est le sauveur qui vient, c'est le bébé, c'est les mages, on a les cartes postales, on a le récit de Noël. Donc c'est très joyeux. Peut-être ce qu'on oublie, c'est qu'autour de Noël, il y a des choses extrêmement tristes. Il y a des choses carrément choquantes. Et le texte que je vais aborder aujourd'hui, c'est un texte choquant. Et pourtant, il est plein pile dans Noël. Alors là, vous êtes intrigués. Alors, je vous donne le titre du message. Vous êtes prêts ? Le massacre à Bethléem. Ah, c'est pas très joyeux, hein ? Et pourtant, c'est en plein dans le mille par rapport à Noël. Le massacre à Bethléem. Alors, prenez vos Bibles, on va à Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, et j'aimerais lire les versets 13 à 23, et vous allez comprendre, d'accord ? Et on va apprendre, alors c'est un message vraiment intéressant, très historique, avec des applications surprenantes à la fin. D'accord ? Donc il faut vraiment s'accrocher, aller jusqu'à la fin. Et ensuite je vais vous donner des applications, je pense, qui sont très pratiques. On va lire Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. Donc parlant des mages, d'accord ? Il commence ceci, les mages, j'y reviendrai dans quelques instants. Lorsqu'ils furent partis, donc lorsque les mages sont partis d'avoir été présent à la naissance de Jésus, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi. » Prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Alors, parlons un petit peu du contexte. Le contexte avant d'arriver dans notre texte. Chapitre 1 et le verset 18 nous dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Donc, on sait que ce récit, à partir de 1.18, nous raconte le récit de la naissance de Jésus. C'est pour ça que notre récit est parfaitement, alors je vais inventer un mot, noélique, ça se dit ? Non, d'accord. Alors, j'enlève ce mot, d'accord ? C'est un message qui s'adapte à Noël. Ok. Mais il était pas mal, cet adjectif, je trouve. Moi, je crois qu'on devrait le rajouter au dictionnaire parce que ça passe, personnellement, je trouve. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ensuite, ces versets 18 à 25 expliquent comment le Saint-Esprit a conçu Jésus avec Marie. D'accord ? Et ensuite, nous arrivons au chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Donc là, il y a la naissance carrément de Jésus. Et c'est intéressant, il est dit, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors ça, c'est tout un autre message. Mais beaucoup de gens, malheureusement, nos cartes postales nous montrent trois mages et on a l'impression que c'est des gens qui arrivent d'on ne sait pas où, d'accord ? En fait, c'était un groupe, ces mages étaient un groupe historique. Ils étaient du pays de Parthe, au-delà de la Babylonie, un petit peu vers l'Iran. Et ils étaient venus chercher un nouveau roi. Leur ancêtre avait été conseiller du roi Nebuchadnezzar, donc les mages d'Orient. Et vous vous rappelez ? Ils avaient eu, à un moment donné, le prophète Daniel, qui, lui, avait été leur chef en Babylonie, lorsque Daniel avait été déporté là-bas. Et ils étaient familiarisés avec les prophéties de Daniel par rapport à la venue du Messie. Et donc, 600 ans plus tard, après Daniel, ils viennent, en plus guidés par une étoile, absolument vraie, c'est une vraie histoire, d'accord ? Cette étoile qui les amène jusqu'à Bethléem où Jésus est né. On estime, alors ça c'est un petit détail intéressant, qu'ils ne sont pas venus à 3, mais plutôt à 1000. Il y avait probablement une armée avec eux, d'accord ? Parce qu'ils ne se déplaçaient jamais tout seuls comme ça à 3 dans le désert, c'était même pas possible de faire ce voyage. Probablement une armée qui explique pourquoi, au chapitre 2, verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Pourquoi est-ce qu'il aurait été troublé, et la ville de Jérusalem aurait été troublée, si c'était simplement 3 gaillards qui venaient en chameau ? Par contre, une armée de 1000 personnes, là, ça peut faire peur. Donc ça, c'est les historiens qui supposent cela. Donc, au chapitre 2, verset 3, le roi Hérode est troublé, la ville entière est troublée. Et alors, il s'inquiète, il demande au verset 4 à 6 aux érudits juifs, écoutez, apparemment, il y a un bébé qui est né, c'est un roi, on l'appelle le roi des Juifs, qui est cet homme ? Est-ce que dit la Bible par rapport à la venue du Messie ? C'est ce que le roi Hérode demande aux Juifs. Alors, eux, ils vont consulter la Bible, l'Ancien Testament, et ils répondent, verset 5, ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui était écrit par le prophète. Il cite Michée 5.1. Ça, c'est quand même génial. Les Juifs, pile poil, ils ont compris que le Messie devait naître à Bethléem. Par contre, ils ne se sont pas déplacés pour voir si Jésus était vraiment le Messie. Mais ça, c'est un autre message encore. D'accord ? Alors, au chapitre 2, 7 à 8, c'est le complot du roi Hérode. Il demande depuis combien de temps l'étoile brillait pour déterminer l'âge de l'enfant nouveau-né. Ils lui disent « Trouvez-le pour moi pour que j'aille l'adorer ». C'était un mensonge, ils voulaient le trouver pour le massacrer parce qu'ils se sentaient menacés. Chapitre 2, verset 9 à 10, les mages sont guidés jusqu'à Bethléem par l'étoile. Au verset 11, un de mes versets préférés de toute la Bible, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est pour ça que les cartes postales nous donnent 3 rois mages qui correspondent à ces 3 dons, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait 3 rois mages. Et puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ça, c'est le contexte. Les mages repartent. Et au verset 13, « Lorsqu'ils furent partis. » Alors je divise notre texte en 3 parties toutes simples. La fuite en Égypte, le massacre à Bethléem et le retour à Nazareth. Premièrement, nous voyons la fuite en Égypte. Verset 13. « Lorsqu'ils furent partis, donc les rois mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Donc ils repartent, ces mages. Et là, nous dit le texte, le Seigneur apparut en songe à Joseph. Alors il faut savoir que des rêves ont toujours été un moyen que Dieu utilisait pour révéler sa volonté aux hommes tout au long de l'Ancien Testament, en fait jusqu'à Actes chapitre 2. À ce moment-là, ça s'arrête. parce que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est donné. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Le mot fuir, c'est le mot fugitif. Un impératif présent, une action continue. Fuis, pars et continue jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à que tu arrives là-bas. C'était 150 km jusqu'à la frontière égyptienne, encore 200 km jusqu'au cœur du pays. Donc 350-400 km à pied ou peut-être à cheval ou en âne, on ne sait pas. Alors pourquoi l'Égypte ? Bonne question. Eh bien l'Égypte était un endroit tout à fait naturel, bien choisi pour l'asile d'un juif. Parce qu'il y avait à ce temps-là, on estime à 100 000 juifs, 100 000 qui habitaient déjà en Égypte. Pendant la période intertestamentaire, pendant que les Grecs régnaient dans le territoire méditerranéen, Alexandre le Grand avait conquis l'Égypte, il y avait établi un sanctuaire pour les Juifs, et tout particulièrement dans la ville d'Alexandrie. Une ville qu'il a nommée par rapport à, nommée d'après lui-même, d'accord ? Ensuite, les Romains ont aussi colonisé l'Égypte et ont maintenu cette colonie juive à Alexandrie. Vous rappelez peut-être que c'est au 3e siècle après Jésus-Christ qu'il y a un groupe de 70 juifs érudits qui ont produit une nouvelle version de l'Ancien Testament, traduite de l'hébreu en grec, qui s'appelle la Septante. Ça, de nouveau, c'était fait à Alexandrie. Donc on voit qu'il y avait une grande communauté juive déjà qui vivait là, et donc c'était un endroit normal, logique, pour Joseph, Marie et leur enfant. N'oublions pas aussi, dans Actes 2:10, que lors de la Pentecôte, des juifs sont venus d'Égypte, et là, se sont convertis à Jésus-Christ. Donc il dit, vas-y, verset 13, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. On pourrait dire qu'une autre raison qu'ils sont allés en Égypte, au verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'était aussi pour accomplir une prophétie, on y reviendra dans quelques instants. Au fait, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, comment est-ce qu'ils ont fait pour payer leur voyage ? Alors pourquoi je dis ça ? Parce que on a l'impression que le verset 11, lorsqu'ils reçoivent de l'or, de l'encens et de la myrrhe comme présent, Dieu pourvoyait déjà les finances pour financer leur voyage et leur séjour là-bas. C'est intéressant. Petit détail intéressant, je trouve. Alors la réaction de Joseph, verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Obéissance immédiate. Alors il prend une précaution, il part la nuit, afin que personne ne sache où il allait. Imaginez combien ça lui est difficile, sans dire à personne, de se lever la nuit, partir sans rien dire à personne. Pourquoi ? Est-ce qu'il l'a fait ? Parce que l'ange lui avait parlé. L'ange lui avait parlé. N'oublions pas que Gabriel avait déjà parlé à Marie, un ange avait déjà parlé à Joseph. Dieu utilisait des anges, des songes, des rêves pour leur communiquer sa volonté. Donc ils sont allés en Égypte. Alors une autre question, que s'est-il passé en Égypte ? Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient là-bas ? Alors on ne sait pas qu'ils sont allés à Alexandrie, c'est pas dit. Où ont-ils habité ? Par quel chemin sont-ils allés ? Combien de provisions ont-ils pris ? Qui ont-ils rencontré en y allant mais aussi sur place ? Alors la réponse elle est simple, on n'en sait rien, on ne sait pas. Non, parce que tout ce qu'on apprend, c'est que, verset 14, Joseph se leva, prit de la nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte, et il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Point à la ligne. On ne sait rien d'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, des théories farfelues, il y en a un paquet. Je vous en donne une ou deux, d'accord ? Les théories, alors je ne sais pas où des gens inventent ces choses, mais voilà ce qu'on dit par rapport à ce qui s'est passé en Égypte. Les ennemis juifs de Jésus considéraient l'Égypte comme un pays de sorcellerie où se pratiquait la magie. Le Talmud dit, et je cite, « 10 mesures de sorcellerie descendent sur le monde, l'Égypte en a reçu 9 et le reste du monde une. » Donc ils n'avaient pas une très haute opinion de l'Égypte. Donc, les ennemis de Jésus disaient que c'était en Égypte que Jésus a appris la magie et la sorcellerie qui lui ont donné les pouvoirs pouvoir de miracle afin de décevoir les hommes. C'est marrant, hein? Alors, puisqu'il refusait de reconnaître en Jésus la puissance de Dieu, dans Matthieu 12, 24, vous connaissez ce texte certainement, il est dit ceci, « Les pharisiens ayant entendu cela, dirent, cet homme, parlant de Jésus, ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Ils ont conclu que Jésus était possédé par un démon satanique. Et ça, c'était la raison qu'il faisait ses soi-disant miracles. Alors ça colle. Alors là, ils ont inventé une histoire comme quoi il a appris cette sorcellerie en Égypte. C'est fou, hein? Au IIIe siècle, après Jésus-Christ, Origène a attaqué un philosophe grec, Celsus, qui disait que Jésus était un fils illégitime et qu'il a dû s'enfuir en Égypte pour y travailler. C'est là qu'il est venu en contact avec des pouvoirs miraculeux. Il est rentré en Israël et s'est proclamé Dieu. Donc je trouve intéressant que ses ennemis, quelque part, reconnaissent que il était fils illégitime, donc il comprenait qu'il y avait un truc qui s'est passé, mais il ne voulait pas dire que c'est Saint-Esprit qui avait eu Jésus, il est avec Marie. Et deuxièmement, ils ont compris qu'il se proclamait Dieu. Le rabbin Eliezer ben Hyrcanus prétendait que Jésus avait tatoué sur son corps les formules magiques nécessaires pour faire ses miracles afin de ne pas les oublier. Vous avez déjà entendu ça, vous? C'est vraiment du n'importe quoi, d'accord? Voilà encore une légende. C'est vraiment intéressant. Voilà encore une troisième. Pendant leur fuite en Égypte, Joseph, Marie et Jésus se sont fait arrêter par une bande de bandits qui allaient voler leurs biens. C'est une théorie, hein, d'accord? Une légende. Mais un des voleurs, qui s'appelait Dizma, fut bouleversé par l'enfant Jésus. Il a convaincu les autres de ne point leur faire du mal. Puis il aurait dit au bébé Jésus, « Ô petit enfant béni, si un jour tu as l'occasion de répandre ta miséricorde sur moi, n'oublie pas cette heure. » 33 ans plus tard, cette légende prétend, le jour où Jésus pendait sur la croix, Dismas était sur la croix à côté de lui, Jésus lui aurait dit, « Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. » C'est n'importe quoi, d'accord? C'est une invention pure et simple. Alors ça, c'est très important. Là, je fais une petite parenthèse. Qui a raison? Vous voyez l'importance? L'importance de la parole de Dieu? Si on n'est pas vraiment 100% engagé à la parole de Dieu, on va être convaincu par n'importe quoi. Et ça, c'est un exemple frappant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont allés en Égypte, verset 15, mais ils restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. On ne connaît même pas la durée du séjour en Égypte, peut-être quelques mois, sans doute moins d'un an. Le but, verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Vous vous rappelez peut-être que Matthieu écrit l'évangile pour prouver que Jésus-Christ est le roi des Juifs, le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament. Et il utilise des prophéties pour le prouver, on en reparlera tout à l'heure. Matthieu y affirme ici que Jésus est celui dont parlait l'Ancien Testament et il cite Osée 11.1. Osée 11.1, que je vais vous lire, donc je lis dans Osée maintenant. « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Voilà la prophétie. Alors dans l'étude des prophéties bibliques, il y a un type de prophétie qui s'appelle des prophéties typologiques. Ça, c'est un exemple d'une prophétie typologique. C'est l'accomplissement d'une prophétie, c'est-à-dire que Christ accomplit une prophétie qui elle-même se trouve dans un contexte différent que la venue du Messie. Osée 11.1 décrit la protection de Dieu envers son peuple Israël en l'amenant en Égypte, rappelez, par le biais de Joseph et le peuple qui a suivi, puis en le ramenant vers la terre promise par le biais de Moïse. Ça, c'est ce que Osée 11.1 est en train de décrire, c'est l'Exode. Mais dans Matthieu 2.15, Matthieu appelle bien ce texte une prophétie à l'égard de Jésus. Matthieu, inspiré par le Saint-Esprit, voit Jésus comme étant une image, ce qu'on appelle l'antitype d'Israël. Dieu a pourvu contre l'extinction de son fils Jésus par la fuite en Égypte et l'a ramené sain et sauf après que le danger soit passé. Ainsi, Matthieu 2.15 est bien l'accomplissement de cette prophétie de Osée 11.1. Ce qui est important à retenir ici, c'est que Joseph et Marie fuient l'Égypte, ils fuient Israël, ils vont en Égypte, ils reviennent, mais ils y restent jusqu'à la mort d'Hérode pour accomplir ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc ça, c'est le premier point, la fuite en Égypte. Deux, le massacre à Bethléem. Cela n'a pas pris longtemps pour Hérode de constater qu'il ne reverrait plus jamais les mages. Ah oui, au verset 12. « Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Donc, ils partent. Alors, combien de jours est-ce que Hérode a attendu dans son palace la réponse des mages? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, les mages ne sont pas revenus leur parler. Lui parler. Alors la réaction d'Hérode, il se met dans une colère furieuse. Alors, verset 16, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Alors ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était l'ordre de Dieu, que les mages ne retournent pas vers Hérode, mais lui ne le savait pas. Et le texte dans l'original est en la voix passive, qui veut dire que Hérode lui-même avait perdu tout contrôle de ses propres émotions et passions, et que sa colère elle-même est devenue incontrôlable. Il n'y avait en fait qu'une chose qui contrôlait Hérode, c'est sa colère. Et vous savez bien, quand la colère prend le dessus d'une personne, cette personne, souvent, perd la capacité de raisonner clairement et de faire de bons jugements. Et la conséquence, c'est que les personnes en colère, parfois, sont poussées à faire des choses irraisonnables qu'elles regretteront plus tard, sous le coup de l'émotion. Alors qu'est-ce qu'il fait? Verset 16, il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors moi, j'essaie d'imaginer un petit peu cette scène. Il envoie des troupes de soldats, romains, avec leur épée, leur poignard. Ils vont de maison en maison. Je pense que les familles ont essayé de barricader leurs portes. Ils les enfoncent. Ils commencent à fouiller chaque pièce, chaque armoire, chaque recoin de chaque maison, chaque rangement, chaque lit, partout, afin de trouver chaque maman et chaque bébé, et surtout des mamans qui essayaient de faire que leur bébé ne pleure pas. Peut-être certaines mamans avaient fui dans les champs sans aller les chercher. J'imagine ces mamans saisissant leur bébé fortement dans les bras, courant aussi vite qu'elles le peuvent, larmes aux yeux, panique écrite sur leur visage pour échapper aux soldats, puis arrêtés par les soldats. Les bébés sont arrachés des bras de leur mère, hurlantes et criantes, et sont brutalement abattus à coups d'épée ou de poignard devant leur mère. Ensanglantés, déchiquetés, les corps de ces bébés sans vie sont maintenant jetés aux pieds de leur mère, hystériques, presque convulsives. Puis les soldats continuent leur chemin à la recherche d'autres bébés à massacrer. C'est marrant hein, de décrire ça aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu ces dernières années avec le terrorisme. On a l'impression que rien ne change dans le monde. La barbarie qu'on peut connaître dans ce monde, franchement, c'est incroyable. Rien n'a changé. Ce qu'on voit, voici jusqu'où peut mener la colère non maîtrisée. Voici jusqu'à où l'homme peut aller dans sa cruauté. Tuer des bébés. Écoutez, moi, ça me fait penser à l'avortement. On le fait légalement aujourd'hui. C'est incroyable. Moi, quand je m'arrête et je pense au monde occidental et le problème de l'avortement aujourd'hui, je me dis, mais on est complètement fou aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet encore. C'est incroyable. Et on est remboursé. Voici le pouvoir de Satan à plein fouet dans une vie, et je parle de Hérode ici, qui n'a pas donné sa vie à Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il fait massacrer les enfants de 2 ans et moins dans son territoire et dans cette ville? Eh bien, il voulait être sûr de ratisser large. Il voulait tuer ce bébé, Jésus, qui était une menace, puisqu'on l'appelait le roi des Juifs. Il ne voulait pas du tout de concurrence. Il s'est dit, ben voilà, c'est avec ce que j'ai entendu parler des mages, il doit avoir bien moins de 2 ans, peut-être 1 an, donc je mets jusqu'à 2 ans et on tue tout le monde. Comme ça, Jésus passe. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà intervenu en donnant un songe à Joseph pour lui dire de partir. Alors pourquoi est-ce que ce texte est là? Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça? Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. L'accomplissement d'une deuxième prophétie, c'est intéressant, hein? Jérémie 31:15. Jérémie, lui, dans sa prophétie, qui est citée ici, d'accord, parle d'une grande tristesse qu'Israël subit suite à sa déportation en Babylonie. Donc ça, c'est le contexte historique de Jérémie 31. Israël est déporté en Babylonie. Rama, c'est une ville à 10 kilomètres au nord de Jérusalem. C'était l'endroit où les captifs juifs étaient rassemblés avant d'être déportés en Babylonie, dans Jérémie 40, verset 1. Les captifs étaient liés par des chaînes, parmi lesquelles était Jérémie lui-même. Le mot Rachel représente, par sa progéniture d'Éphraïm et de Benjamin, Israël. Donc il parle d'Israël, les tribus du nord et du sud. Donc, dans Jérémie 31:15, pour résumer, Rachel pleure pour ses enfants déportés, perdus, morts dans la captivité babylonienne. Matthieu, ici, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que cet incident typifie prophétiquement les mamans de Bethléem qui lamentaient la mort de leurs enfants et leurs bébés. Tout ce que je veux souligner ici, c'est que de nouveau, c'est l'accomplissement d'une prophétie, on y reviendra. Alors ce que je trouve étonnant, mes amis, c'est que Jésus était un bébé et déjà on voulait sa vie. Et pendant toute sa vie, on le voulait mort. Bien sûr, le Fils de Dieu dérange. Celui qui est parfaitement saint, qui veut te pardonner ton péché, dérange. Il dérange ton péché. Parce que la seule manière d'être pardonné de ton péché, c'est de reconnaître que tu es pécheur. Et Hérode ne voulait surtout pas reconnaître son péché, il ne voulait surtout pas céder sa vie à un autre roi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, un roi spirituel, jamais de la vie. Non, 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 c'est moi le numéro un. Jamais quelqu'un va me menacer. Ben, mon ami, si ça c'est ton attitude, ça va être très difficile de rencontrer Christ. Parce que Christ veut être le Seigneur de ta vie. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et rien d'autre. Trois. Le retour à Nazareth. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Alors, ce qu'on apprend au verset 19, très important, quand Hérode fut mort. Alors, Matthieu ne nous dit rien à propos de la mort d'Hérode, mais l'historien juif Joseph nous décrit sa mort en détail. C'est pas joli, je vous lis, c'est historique. Joseph, l'historien juif, nous décrit la mort d'Hérode comme ceci. Je cite. Ses entrailles étaient exulcérées et les plus grandes de ses douleurs qu'il ressentait étaient dans son côlon. Mais ses pieds aussi étaient enflés, duquel sortait un liquide transparent ainsi qu'en dessous de son nombril. Il avait des vers qui sortaient de ses membres et quand il s'asseyait, il avait de la peine à respirer. L'odeur de son haleine était horrible, nous dit Joseph. Des convulsions sur tout son corps étaient fréquentes. Pour essayer de les soulager, on le prenait au-delà du Jourdain pour lui donner des bains chauds vers le lac d'Asphartitis. On l'immergeait régulièrement dans de l'huile chaude. Dans sa douleur, il devint de plus en plus colérique et presque fou, faisant des choses atroces vers les derniers jours de sa vie. Alors, voici une description de son dernier acte de barbarie. Quelques jours avant sa mort, il a ordonné que tous les principaux leaders de la nation juive, où qu'ils habitaient, lui soient amenés. Un grand nombre est venu, car la mort était décrétée par ceux qui refusaient de venir. Le roi était dans une rage extrême contre eux pour aucune raison particulière. Une fois sur place, il ordonna que soient enfermés dans l'hippodrome tous ces gens. Puis il appela sa sœur Salomé et son mari Alexas et leur dit « Je vais bientôt mourir. Tellement mes douleurs sont grandes. Ce qui me trouble cependant, c'est que je vais mourir sans être lamenté et sans la tristesse réservée habituellement à la mort d'un roi. » Il savait très bien que personne l'aimait. Alors, il ordonna que les soldats soient placés tout autour de l'hippodrome et qu'au moment de sa mort, les soldats tuent par le biais de flèches tous les hommes dans l'hippodrome. Ceci garantirait que Jérusalem soit en lamentation au jour de sa mort. Livre 17, page 496. Fait historique. Historien Joseph, c'est exactement ce qu'il dit. L'histoire nous donne la suite. C'est Archélaüs, du verset 22, au verset 22, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée. Archélaüs a fait le nécessaire pour l'enterrement de son père. Joseph nous dit que son corps fut enseveli dans une robe violette, sur sa tête fut placée une couronne en or et dans sa main un sceptre. Le brancard sur lequel on l'a porté était fait en or massif, garni de pierres précieuses. 500 esclaves portaient des parfums sur la route qui traverse le désert entre Bethléem et Jéricho. Encore aujourd'hui est visible la ruine solitaire, l'Hérodion, l'endroit où fut enterré Hérode. Et Joseph résume la vie d'Hérode comme ceci, je cite, « C'était un homme de grande barbarité, envers tous les hommes également, et un esclave de ses passions. » Triste, hein? Vraiment triste. Donc, on comprend mieux le verset 19. Quand Hérode fut mort, voici la suite, un ange du Seigneur. L'ange du Seigneur reparle à Joseph, apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends les petits enfants et sa mère. » Un petit détail très intéressant, regardez. « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. » Il ne dit pas « Prends ton fils. » Parce que Joseph n'est pas le vrai papa de Jésus, c'est le Saint-Esprit et Marie qui sont les parents de Jésus. Donc il dit le petit détail génial, d'accord ? Oui, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Intéressant, hein ? Va dans le pays d'Israël. L'ange lui dit de rentrer en Israël. Il ne lui dit pas encore où, juste dans le pays. Car ceux qui voulaient ta vie, la vie du petit enfant, sont morts. Alors ça implique aussi que Hérode n'était pas le seul qui voulait voir Jésus mort. Il y en avait d'autres. On ne sait pas exactement qui là, mais c'est ce qu'on apprend. Et donc au verset 21, Joseph se leva, il obéit, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Alors regardez verset 22, encore un petit point historique. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre. Tiens, petit détail intéressant. Alors Hérode est mort, son fils Archélaüs règne. Alors Joseph dit non, moi j'y vais pas encore, parce que Archélaüs, il n'est pas sympa. Alors qu'est-ce qu'on sait sur Archélaüs ? Je ne suis peut-être pas très bon à prononcer les noms romains, d'accord ? Alors, encore un petit cours d'histoire, c'est pour ça que j'aime cette étude, j'aime l'histoire. C'est vraiment intéressant. Donc, lorsque Hérode est mort, il avait trois fils. Il a divisé le territoire de ses trois fils. Au nord, il y avait Philippe. Au milieu, il y avait Hérode Antipas, la Galilée, le milieu. Et au sud, Samarie, Judée, Archélaüs, troisième fils qui reçoit le sud du pays comme héritage. Donc, Archélaüs devient le gouverneur de la Judée où se trouve Bethléem. Mais écoutez ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé au pouvoir. De nouveau, je lis. Pendant que Hérode était encore vivant, il avait décidé d'ériger un immense aigle en or sur le grand portail devant le temple juif. Donc vraiment sur le devant, un grand aigle. Il a érigé un aigle sur le temple juif. Ceci, bien entendu, était fortement revendiqué par les Juifs qui pensaient que l'aigle était une abomination qui violait le deuxième commandement dans Exode 24 qui défendait l'adoration d'autres dieux en forme d'idole. Et les Romains utilisaient l'aigle pour représenter le dieu Jupiter. Donc eux, ils pensaient que c'était de l'idolâtrie de mettre l'aigle romain sur l'entrée du temple. Donc, deux Juifs célèbres, Judas et Matthias, ont réagi. Et ils ont encouragé leurs étudiants à réagir avec eux. Ils sont un jour montés sur le toit, où je ne sais pas exactement où était cet aigle, avec des haches. Bref, ils ont démonté cet aigle et ils l'ont cassé en petits morceaux. Alors on a arrêté ces deux hommes et leurs amis. Les amis ont reçu des peines légères. Mais Judas et Matthias ont été, eux, mis à mort. Alors, ça crée une révolte. Après la mort d'Hérode, et avant que Joseph et Marie et Jésus soient revenus d'Égypte, une révolte à Jérusalem, à cause du meurtre de ces deux hommes. Et Archélaüs, qui était maintenant gouverneur de la Judée, a réprimandé cette révolte en exécutant 3000 juifs. À cause de cette cruauté, qui surpassait même celle de son père Hérode. Les Judéens, les Samaritains, se sont plaints envers Rome. Finalement, dans la 9e année de son règne, Jésus avait environ l'âge de 10 ans, Archélaüs fut déposé à Rome, donc on lui a retiré son poste, on l'a renvoyé à Rome. Et à sa place, Rome a installé un nouveau gouverneur, Ponce Pilate. Ponce Pilate, celui qui donna l'ordre de crucifier Jésus 20 ans plus tard. Voici pourquoi Joseph a eu peur de rentrer d'Égypte, sachant que Archélaüs régnait à la place d'Hérode. Donc là, on comprend mieux maintenant le verset 22. « Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre. et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Donc au lieu de rentrer à Bethléem, ce qui était logique, mais ils partent à Nazareth. Verset 23, et il vint demeurer dans une nouvelle ville, dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Est-ce que vous avez vu? Troisième fois qu'on voit quoi? L'accomplissement d'une prophétie. L'accomplissement d'une prophétie. Qu'il serait appelé Nazaréen. Alors, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est quand même une prophétie intéressante. Parce que nulle part dans l'Ancien Testament est-il mentionné par aucun prophète que le Messie serait appelé un Nazaréen. Or, il dit, verset 23, « Il va demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » Énigme. Intéressant, hein? Comment résoudre ce problème? Alors, premièrement, les prophètes ont bien fait cette prophétie, mais elle n'a pas été enregistrée dans l'Ancien Testament. Vous dites quoi? Une prophétie faite, vraie, de Dieu, pas enregistrée dans l'Ancien Testament. Je vous en montre deux autres, assez intéressants, dans Jude 9. Je parie que vous avez déjà lu ces versets, vous dites, tiens, mais ça vient d'où ça? Regardez voir. Jude 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, l'archange Michel conteste avec le diable pour le corps de Moïse. Vous avez déjà lu ça? Vous dites, mais ça vient d'où ça? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est là. C'est dans le Nouveau Testament. Mais il n'y a aucune référence à ça dans l'Ancien Testament. Versets 14 et 15, pareil, dans Jude 14 et 15, il est dit ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes impiétés qui ont été commis, de toutes les paroles injurieuses qui ont proféré contre lui les pécheurs impies. Enoch a apparemment fait une prophétie mentionnée dans ces deux versets, nulle part trouvée dans l'Ancien Testament. Alors, les auteurs du Nouveau Testament étaient inspirés de Dieu et ont écrit le Nouveau Testament sans aucune erreur. Donc, apparemment, ces prophéties ont été bien faites, simplement pas écrites telles quelles. C'est intéressant, Matthieu ne donne aucune explication ici. Il dit tout simplement, ben voilà, c'est une prophétie, comme quoi il serait appelé Nazaréen. Il savait parfaitement que ce qu'il citait n'était pas dans l'Ancien Testament, puisqu'il avait déjà l'Ancien Testament. Or, cette prophétie n'a pas été contestée pendant 2000 ans depuis, jusqu'à aujourd'hui, et elle est acceptée comme légitime. Personne n'a jamais contesté la véracité de cette prophétie. Donc, troisième prophétie accomplie. Donc, je relis le verset 23. Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Et ça, c'est la fin de notre texte, mes amis. Conclusion et application. Numéro 1. Hérode typifie l'aboutissement extrême d'une vie sans Jésus-Christ. Même les historiens ont reconnu la misère dans laquelle est mort Hérode. Et pas une misère financière. Il avait tout. Un homme extrêmement riche, puissant, mais misérable. Son être intérieur était ravagé par des années de haine et de colère non contrôlées. Joseph l'avait bien dit, Hérode est un homme de grande barbarie envers tous les hommes également et un esclave de ses passions. Vous savez, il n'est pas exceptionnel, il y a beaucoup d'Hérode aujourd'hui dans notre monde. Mais tous les gens qui font le mal autour de nous, tous les meurtres, les viols, les déviations sexuelles de toutes sortes, les vols, même je dirais l'alcoolisme, les drogues, les guerres, aujourd'hui c'est le terrorisme. Il y a tellement de terrorisme autour de nous. Daesh. Comment expliquer cette barbarie? Moi, j'ai envie d'ajouter même l'avortement dans tout ça. C'est des barbaries. Quand on s'arrête et on réfléchit un petit peu à tout ça. Ben, c'est pas différent qu'Hérode. Non, Jésus l'a dit. Dans Matthieu 15, il décrit le cœur humain. Il dit au verset 17, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Le problème humain, c'est un problème du cœur, mes amis. Notre cœur est mauvais. Nous sommes nés dans le péché, nous dit David. Psaume 32, psaume 51. C'est pour ça que tu dois jamais apprendre à ton enfant à dire non. Mais tu dois lui apprendre à dire oui. Pourquoi ? Parce qu'il est rebelle de nature. Il est né rebelle. Vous dites, mais pourquoi il y a tellement de guerres ? Jacques 4, écoute. Jacques 4 répond, Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? Écoutez, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous savez ce qu'il est en train de dire ? J'ai un cœur déchu, un cœur pécheur, un cœur mauvais et ça me rend égoïste. Je veux et j'irai jusqu'à n'importe quoi pour l'avoir. Regardez les guerres. C'est quoi les guerres ? D'habitude, c'est quelqu'un qui veut quelque chose, l'autre ne lui donne pas, donc tac, il sort les armes et il commence à tirer. Les meurtres, c'est pareil. Le viol, c'est pareil. Toutes les choses, c'est l'homme qui veut quelque chose et puisqu'on ne lui donne pas, il va le prendre par la force. Jacques 4, 1 et 2. Matthieu 15. Ça, c'est le problème. Romains 1, 20 et 21, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, donc entendu parler de lui, ils ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ça, c'est notre monde, mes amis. Le monde est devenu fou. Je parlais avec mon médecin l'autre jour, et mon médecin m'a dit... Ça fait peur. Ça fait peur ce qui se passe aujourd'hui. Je dis oui. À moins que tu connaisses Jésus-Christ. Ézéchiel 36, Jérémie 31 nous parle d'un nouveau cœur. Jésus dit dans Jean 3, sois né de nouveau. Christ peut venir et transformer ce cœur méchant. Il peut transformer ce cœur, il peut le laver, le purifier. Ce matin, je lisais Romains 6, écoutez. Romains 6, 17. Regardez ce qui peut se passer lorsque Christ rentre dans un cœur et le change. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu en ce que, après avoir été esclave du péché, bah oui, on est né dans le péché, on est esclave du péché. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. C'est intéressant. Jésus-Christ, lui qui est mort à ma place, peut venir transformer mon cœur. Moi qui étais esclave au péché, il transforme mon cœur et je deviens esclave de la justice. Maintenant, je déteste le péché. Je veux plaire à Dieu. C'est ce qu'il dit ici, de cœur. Ce qui est dingue avec Hérode, c'est qu'il était si proche de Jésus. Il aurait pu faire comme les mages. Les mages, écoutez, c'était l'opposé. Les mages sont allés l'adorer. Lui, il est allé essayer de le tuer. Tu ne peux pas être à l'opposé plus que ça. Alors là, Hérode, il a fait la gaffe de sa vie. Et il en paye aujourd'hui dans l'éternité. Deux. Application. D'accord. Deux. Non, l'application, c'est ne soyez pas comme Hérode. D'accord. Je pense que vous avez compris. Hérode, c'est un très mauvais exemple. Très, très mauvais exemple à suivre. D'accord. Deux. C'est l'historicité de la Bible, tout simplement. Moi, ce que j'aime tant avec la Bible, mes amis, aujourd'hui, c'est une leçon d'histoire, presque, non ? L'histoire. Hérode, Archélaüs, l'Égypte, Alexandrie, les Juifs, la Septante. Non, mais c'est tellement intéressant. Vous savez ce que j'aime avec la Bible ? C'est que la Bible est un livre historique, vérifiable. La vie de Jésus est ancrée au plein centre d'une histoire vérifiable. Ces hommes ont vraiment vécu. Ces choses ont vraiment eu lieu. Pour moi, c'est rassurant. C'est pas un livre subjectif. C'est pas juste des poèmes ou des beaux récits. C'est de l'histoire. C'est concret. C'est historique. Et ça, c'est le fort de la parole de Dieu, mes amis. Jésus est venu dans un contexte historique. Il a donné sa vie, mort, ressuscité, pour changer le monde. 3. Écoutez-moi, ce qui saute de notre texte d'aujourd'hui, c'est 3 prophéties. Alors, je vous donne, elles sont un peu obscures. Ok. Je suis d'accord, elles ne sont pas vraiment faciles, là, comme ça, rapidement, à déceler, à comprendre. Mais il y en a plein d'autres. Alors, une prophétie, c'est quoi ? C'est quelque chose qui a été annoncé par quelqu'un qui allait arriver 800, 700, 600 ans plus tard. Donc c'est quand même long. D'accord ? Alors, écoutez, c'est vraiment intéressant. Dans Jean 5, 39, Jésus dit ceci. Jean 5, 39. « Vous sondez les Écritures. » Donc, de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'existait pas encore. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Écoutez bien. « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc il dit, lis l'Ancien Testament, et en le lisant, tu vas voir que l'Ancien Testament parle de moi, puisque je suis le Messie, dit Jésus. C'est quand même assez radical comme truc, hein. Luc 24, 44, il dit ceci. Non, Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus dit, écoutez, je suis l'accomplissement de toutes les prophéties de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes par rapport au Messie. Si vous listez toutes ces prophéties, c'est moi qui les accomplis. Ou bien c'est gonflé, ou bien c'est vrai. C'est vrai, non ? Ah oui. Il n'y a rien de plus simple à vérifier, alors. Tu prends les prophéties, tu les lis, tu dis, Jésus, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Alors, il y en a 300. Je ne vais pas toutes les vous donner, mais je vous en donne quelques-unes, d'accord ? Sans les références, je vous les liste. Voici certaines des prophéties dans l'Ancien Testament par rapport au Messie à venir. Et vous me dites, comme ça, vous dites, tiens, ça me fait penser à qui ? D'accord ? On y va. Alors, je vous donne quand même quelques références. Ésaïe 7, 14, il serait né d'une vierge. On lui donnerait le trône de David. Il serait rejeté par les siens. Il serait précédé par un messager. Il serait né à Bethléem, Michée 5, 1. Il serait visité par les mages et présenté des cadeaux. Qu'il irait en Égypte pour un temps. Que son lieu de naissance souffrirait les massacres d'enfants, Jérémie 31. Qu'il serait une lumière aux nations, pas que pour Israël. Beaucoup de malades, qu'il parlerait en parabole, qu'il ferait une entrée triomphale à Jérusalem sur un âne, le petit d'une ânesse, qu'il serait adoré par des petits-enfants, qu'il serait rejeté, que ses miracles ne seraient pas crus, qu'il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, que l'argent avec lequel il serait trahi serait utilisé pour acheter un champ appelé le potier, très spécifique, Zacharie 11, qu'il serait un homme de douleur et de souffrance, qu'il serait frappé, qu'on lui cracherait dessus, qu'on lui donnerait du vinaigre à boire, qu'il serait crucifié avec les mains et les pieds percés, qu'on partagerait ses vêtements par le tir au sort et qu'il ressusciterait des morts. Et ça, c'est qu'un échantillon, mes amis. Quand on faisait un tour d'Israël il y a 2 ans en arrière, je parlais avec le guide. Je lui dis, écoutez, on parlait des prophéties. Je lui dis, écoutez, je vais vous lire un truc. Vous me dites de qui c'est. Comme ça, on fait un petit jeu. J'ai pris Ésaïe 53, j'ai commencé à lire, il m'a dit, ah mais ça c'est Jésus ça, c'est Jésus. Il était juif, il n'était pas croyant. Hein. Mais je lisais Ésaïe 53, il disait, ah mais ça c'est Jésus. J'ai dit, mais vous croyez que c'était écrit quand? Bah, c'était écrit par les gens qui ont connu Jésus. J'ai dit, ah, je vous montre un truc. J'ai ouvert Ésaïe 53, je lui ai montré, je lui ai dit, c'était écrit 700 ans avant Jésus. Le gars, il était bouche bée. Bouche bée. Rentre à la maison, lis Ésaïe 53, tu seras soufflé. Vous dites, ouais, mais c'est facile. Jésus, il a bien lu l'Ancien Testament et il s'est dit, moi, je vais tout faire pour être l'accomplissement des prophéties. Ok. Ça, c'est facile. Mais comment faire pour prédire son lieu de naissance? Comment prédire l'époque de sa naissance? Comment faire pour planifier le fait qu'on serait né d'une vierge? Comment prévoir le fait que des enfants seraient massacrés dans la ville natale au moment de sa naissance? Comment prévoir sa manière de mourir par crucifixion? Comment prévoir la réaction des gens face à sa propre mort? Comment prévoir les détails de son propre enterrement après sa mort? Et comment prévoir sa propre résurrection physique? Si tu veux croire ça, qu'il a essayé de tout concocter, tu peux, mais c'est même pas logique. C'est impossible. Écoutez, c'est vraiment quelque chose de magnifique, ces prophéties, mes amis, parce que ça concrétise la véracité de la parole de Dieu. Et je termine avec ceci. Quatrième application. Et quoi? Eh bien, c'est le récit de Noël, mes amis. Dans Luc 19, 10, Jésus dit ceci. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est le Messie. Jésus est venu à Noël pour donner sa vie, pour nous sauver. Est-ce que Jésus est ton Noël? Est-ce que tu le connais vraiment? Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que ta vie est plus comme Hérode? Si oui, elle peut changer. Christ, Christ est le Messie. Maguimon est allée visiter Teresa Vanadou l'autre jour à l'hôpital, il y a 2 jours. Elle est hospitalisée, je pense qu'elle va rentrer à la maison, elle n'est pas bien, vous savez, elle a le cancer, elle n'est pas bien. Elle bénissait le Seigneur. À côté d'elle, il y a une dame, c'était tout enfermée, qui avait aussi le cancer. Et pendant qu'on parlait avec Teresa, je cite, elle disait, Dieu, vous m'avez abandonné. Elle disait, Dieu, vous êtes méchant avec moi. C'est ce que la dame disait à côté. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est. Mais je me dis, c'est incroyable. Deux personnes qui ont le même problème dans la vie, parce que nous sommes dans un monde déchu. Une qui maudissait Dieu et l'autre qui bénissait Dieu. Et je me dis, mes amis, le christianisme, c'est très pratique. Parce que Christ peut te rendre joyeux même dans la plus grande épreuve. Seigneur, merci de tout cœur. Merci de tout cœur pour ce texte. Seigneur, utilise-le dans nos vies comme tu sais si bien le faire. Seigneur, si quelqu'un ici ne te connaît pas, qu'aujourd'hui, ils disent oui à Jésus. Seigneur, fais ton œuvre. Nous te bénissons de tout cœur pour Noël et pour le fait que nous connaissons le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.